Audiolib présente Le Silmarillion de John Ronald Reuel Tolkien. Édition établie et préfacée par Christopher Tolkien. Traduit de l'anglais par Daniel Lauzon. Lu par Thierry Janssen. Avant-propos de Christopher Tolkien, 1977. Aujourd'hui publié, 4 ans après la mort de son auteur, Le Silmarillion est un récit des jours anciens, du premier âge du monde. Dans Le Seigneur des Anneaux, étaient racontés les grands événements qui marquèrent la fin du troisième âge. Mais les contes du Silmarillion reprennent les légendes d'un passé beaucoup plus reculé, du temps où Morgoth, le premier seigneur sombre, résidait en terre du milieu, alors que les hauts elfes lui faisaient la guerre pour reprendre les Silmarils. Non seulement le Silmarillion relate les faits d'une époque bien antérieure à celle du Seigneur des Anneaux, c'est aussi dans tous ses aspects essentiels l'œuvre de loin la plus ancienne. Car même s'il ne portait pas alors ce titre, le Silmarillion existait déjà il y a un demi-siècle. Et c'est dans des carnets délabrés, remontant pour certains à 1917, que l'on peut encore lire les toutes premières versions, souvent crayonnées à la hâte, des histoires désormais au cœur de cette mythologie. Cependant, elles ne furent jamais publiées, bien qu'on ait pu glaner quelque idée de leur contenu dans Le Seigneur des Anneaux. Et tout au cours de sa longue existence, mon père ne s'en détourna jamais, pas plus qu'il ne cessa de les retravailler, même en ces dernières années. Durant tout ce temps, le Silmarillion, envisagé au plus comme une vaste structure narrative, demeura relativement à l'abri de toute transformation radicale, devenue depuis longtemps une tradition immuable et une toile d'arrière-plan pour de nouveaux écrits. Pourtant, le texte en soi n'avait rien d'immuable, et il ne resta pas inchangé, même dans certaines idées fondamentales touchant à la nature du monde qu'il représente. Tandis que les mêmes légendes étaient retravaillées sous d'autres formes, plus longues ou plus brèves, et dans des styles différents. Au fil des années, les changements et variantes, de détails comme de plus vaste échelle, ont atteint une telle complexité et se sont généralisés et additionnés à tel point qu'une version finale et définitive semblait hors de portée. De plus, les anciennes légendes, anciennes non plus seulement par leur lointaine origine au premier âge, mais aussi dans la vie de mon père, sont devenus le véhicule et le réceptacle de ses plus profondes réflexions. Dans ses derniers écrits, poésie et mythologie s'effacent devant les préoccupations théologiques et philosophiques, avec pour résultat une certaine incompatibilité de ton. À la mort de mon père, c'est à moi qu'il revenait de tenter de mettre l'œuvre en forme en vue de sa publication. Il m'est apparu que d'essayer de réunir la grande diversité du matériau sous une même couverture, de présenter le Silmarillion tel qu'il est, c'est-à-dire une création continue ayant évolué sur plus d'un demi-siècle, ne ferait qu'engendrer la confusion et noyer l'essentiel. Je me suis donc attelé à la préparation d'un texte unique en procédant à des choix et des agencements qui me semblaient favoriser l'homogénéité et la cohérence interne du récit. À ce titre, les derniers chapitres, après la mort de Turin Turambar, soulevaient des difficultés particulières, puisque, n'ayant pas été retouchés depuis de nombreuses années, ils étaient sous certains aspects en profond désaccord avec les conceptions plus amplement développées des autres parties du livre. Il ne faut pas chercher, dans les pages du Silmarillion lui-même ou entre le Silmarillion et les autres écrits publiés de mon père, une parfaite cohérence, laquelle n'eût été possible, et encore, qu'au prix de sacrifices coûteux et inutiles. Qui plus est, mon père en vint à concevoir le Silmarillion comme une compilation, un récit condensé, établi longtemps après à partir de sources très diverses, des poèmes, des annales, des contes de tradition orale, ayant traversé les âges. Conception qui se reflète d'ailleurs dans la composition de ce livre, dont une bonne part porte la trace d'anciens morceaux en vers ou en prose. C'est donc, d'un certain point de vue, une compilation dans les faits et non seulement en théorie. C'est à cela sans doute que l'on doit les variations de rythme, l'action diversement détaillée dans les différentes parties du récit, Le contraste, par exemple, entre l'évocation précise des lieux et des motifs dans la légende de Turin Turambar et le lointain survol des événements de la fin du Premier Âge lorsque le Thangorodrim fut brisé et Morgoth jeté bas. Aussi les quelques incohérences dans le ton et la palette descriptive, certaines obscurités et par endroits un certain manque de cohésion. Dans le cas de la Valaquenta, par exemple, il nous faut supposer, même s'il y a là bien des choses devant remonter au premier jour des Eldar en Valinor, que le texte n'est pas exempt de remaniements ultérieurs. Ainsi s'expliquent les nombreux changements de temps et de point de vue, si bien que les puissances divines nous semblent tantôt présentes et actives dans le monde, tantôt lointaines, figures d'un ordre ancien qui n'existe plus que dans les mémoires. Ce livre, quoique nécessairement intitulé le Silmarillion, ne contient pas seulement la Quenta Silmarillion ou le Silmarillion proprement dit, mais aussi quatre autres œuvres plus brèves. L'Ainulindale et la Valaquenta, données au commencement, sont en effet étroitement associées au Silmarillion. Mais la Calabeth et les Anneaux du Pouvoir, qui apparaissent à la fin, sont pour leur part, il faut le souligner, tout à fait indépendantes. Leur présence répond à l'intention clairement formulée de mon père, afin que soit exposée toute l'histoire depuis la musique des Ainur, qui marque le commencement du monde, jusqu'au départ des porteurs de l'anneau au havre du Mithlond à la fin du Troisième Âge. Dans la tâche difficile et incertaine que représentait la préparation de ce livre, j'ai été grandement assisté par Guy Kay, qui a travaillé à mes côtés en 1974-1975.